Arrache, tu vois ce que je vois?
Ouais, je le vois. C'est la moto de Canada dans Akira. C'est un skin original placé sur une moto de base.
Non, pas la moto. Oublie la moto.
Bonjour et bienvenue dans La Moto de qui déjà, le podcast qui, avec vous, essaye de déterminer à qui était cette foutue moto. Quand même, on se pose encore la question. Après, c'est la deuxième saison, on a potentiellement peut-être une réponse avec ce nouveau roman d'Ernest Cline. Je pense qu'on peut dire cet acteur postmoderne qui a marqué son époque. Cet auteur postmoderne qui a marqué son époque. Dieu nous préserve, il n'est pas encore acteur. Nous parlons de Bridge to Bad City, qui s'appelle en VF Bad City, parce qu'on n'allait pas traduire non plus, qui est son dernier roman, sorti en avril 2024, qui est un livre pour enfants. Alors, est-ce vraiment un livre pour enfants ou un livre pour grands-enfants? Nous allons en débattre avec, comme à l'accoutumée, mes deux chroniqueurs. D'un côté, Camille. Bonjour Camille.
Salut, je suis prête à en découdre.
Ouais, tu as bien lu ces 5 chapitres, tu t'es bien imprégné de la substance Kleinesque.
Ah, j'ai macéré dedans, on peut le dire, je suis un pickles d'Ernest Cline.
Eh bien, c'est parfait. Et de l'autre côté, Brice. Bonjour Brice.
J'en peux plus, je veux déjà en finir.
Mais on a fait que 5 chapitres, Brice, voyons, il en reste 16.
C'était trop.
C'est drôle que tu dis ça, Brice, t'as lu mes notes parce que c'est littéralement marqué « Je suis déjà au fond du sachet, je veux en finir ». C'est la première phrase du chapitre 1.
Écoutez, ne divulgâchons pas trop vite, ne disons pas ouvertement à nos auditeurs, surtout ceux qui ont eux aussi lu les 5 chapitres, à quel point nous avons souffert. Je pense que eux auront aussi potentiellement des PTSD à partager avec nous. Mais oui, ça y est, nous sommes lancés, nous avons lu les 5 premiers chapitres de Bridge to Bad City, donc ce livre pour enfants, et eh bien, je vous propose de commencer tout simplement à discuter du chapitre 1, un chapitre un peu introductif, un chapitre qui s'appelle « La grosse vieille belle grotte ». Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier chapitre? Ben, Brice, vas-y, commence.
Ben écoute, avant de lire ce chapitre, je t'avouerais que je ne savais pas du tout ce qu'était une chauve-souris. Vraiment, l'objet, l'animal chauve-souris, c'était vraiment quelque chose qui était assez obscur pour moi. Et en une dizaine de pages, j'ai une description Pokédex, en fait. Vraiment, chauve-souris, ce qu'elle mange, où elle vole, tout, vraiment, la description parfaite de l'animal. Et bah, merci Ernest Cline, ça commence très bien. Et sans oublier, bien sûr, la petite cerise sur le gâteau habituel, hein, où Ernest Cline nous rappelle quand même qu'on n'est pas là seulement pour parler de chauve-souris. Voilà, ce qu'il aime principalement, ce qu'il excite, c'est l'infodump, c'est le name dropping. Donc voilà, en cerise sur le gâteau, vous aurez aussi une chanson country des années 80, mais ça je vous le laisse.
Tu veux parler de l'astérisque? Écoute, avant de passer à l'astérisque qui m'a fait hurler, et c'est le chapitre 1, c'est ça qui est extraordinaire. Camille, est-ce que tu as appris beaucoup de choses sur les chauves-souris?
Ah bah complètement, dès la deuxième phrase, on est submergé d'informations dispensées avec la frénésie d'un enfant surexcité qui sort de la piscine et puis qui, dégoulinant d'eau chlorée, s'accroche à votre bras pour vous parler de sa nouvelle passion. Il a tout lu sur le sujet, il a tout compris et maintenant il va tout vous dire, vous n'avez pas le choix. Bienvenue chez Ernest Cline. Au niveau du style d'écriture, c'est extraordinaire. Donc une grande et belle vieille grotte est mentionnée, hein, c'est ainsi qu'il la nomme. Non pas une ni deux, mais 6 fois, 3 fois en 12 lignes. Donc, il insiste vraiment avec la candeur d'un idiot émerveillé. C'est extraordinaire, c'est anesthésiant. Il a très envie que vous soyez fasciné par cette grotte, sauf que vous ne l'êtes pas. Et c'est un peu tout le thème du roman, j'ai l'impression.
Mais pourtant, elle est grande, vieille et belle. Tu devrais être fasciné après avoir lu 6 fois, donc en 12 lignes, tu disais. Moi, j'ai noté 7 fois en une page et demie, donc il y en a un de plus quelque part perdu un peu plus loin. Parce que tout est grand, vieux et beau, hein, dans ce chapitre. Et effectivement, alors j'avais moi aussi noté que j'avais l'impression de lire un exposé de CE2 sur les chauves-souris. Ce qu'on faisait, tu sais, sur une grosse double page avec des photos découpées et collées à la colle UU et qu'on présentait ensuite devant toute la classe fièrement quand on avait fait un exposé sur un sujet dont tout le monde se battait royalement les roustons. Et bien voilà, c'est ce que fait Ernest sur un chapitre entier et on sait à peu près tout ce qu'on avait à savoir sur les chauves-souris, ou presque, puisque, sans vouloir divulgâcher, il y aura encore plus d'infodumps sur les chauves-souris par la suite. Mais oui, c'est un infodump qui nous arrive par un narrateur qu'on ne sait pas trop si c'est l'héroïne du bouquin des années après qui raconte son histoire ou si c'est quelqu'un d'extérieur, c'est pas vraiment clair. En tout cas, cette personne a une maman qui a des expressions idiomatiques.
Oui.
Et notamment celle-ci qui dit never yuck anyone else's yum, donc globalement ne dénigre pas ce que d'autres personnes aiment. Est-ce que toi aussi tu l'as noté, Brice, celle-là ?
Bien sûr, je l'ai noté, c'est j'ai même dû faire des recherches sur cette phrase pour voir à quelle année elle collait, tout ça. Apparemment, il y a une résurgence, ça y est, elle est revenue en fait avec notre génération actuelle, mais c'est vrai que c'est une phrase alors qui est en l'occurrence mise pour parler pour dire en gros, oui, soyez pas dégoûtés de ce que bouffent les chauves-souris, mais je sais pas, moi je lui associais plus à un truc, enfin je sais pas, c'est un peu le genre de phrase, tu t'ouvres un tiroir, tu vois des posters de Doloréane avec un trou dedans, et là tu sors ça. Tu sors ça là. Tu dis non, mais en fait si t'aimes pas ça, bah faut pas en écouter les autres. C'est la même chose, t'ouvres un placard, il y a David Carradine qui est pendu, bah pareil, tu vois. C'est une phrase, c'est dans le domaine du kink en fait que je voyais plus cette phrase, moi. C'est ce que je veux dire.
Ouais, alors moi je voyais un parallèle avec le fameux Let People Enjoy Things qui est absolument horrible et qu'on s'est mangé à toutes les sauces à partir du moment où on était un peu critique sur quoi que ce soit. C'est à peu près comme ça que je le voyais, parce que c'est peut-être une manière pour Ernest de répondre à ses détracteurs. Mais heureusement que tu as cherché, parce que je me demandais si c'était un kleinisme, s'il avait inventé cette expression ou si elle existait vraiment. Donc elle existe vraiment. Écoute, c'est formidable.
C'est un peu surestimer Ernest Cline de croire qu'il est capable de créer son propre contenu quand même.
Écoute, il y a deux ou trois moments par la suite où on aura affaire à des kleinismes. Après, c'est vrai que c'est un petit peu moins élaboré qu'inventer une expression, je te l'accorde. Alors on a eu un petit peu eu un avant-goût de ce qu'on allait se taper, puisque on a des encadrés dans ce livre, puisque donc c'est un livre pour enfants qui est illustré, on en avait parlé dans l'épisode précédent, et les illustrations sont plutôt cool, mais il est pas juste illustré, il est aussi agrémenté d'encadrés qui apportent des précisions extrêmement importantes sur tout un tas d'anecdotes vraiment indispensables pour comprendre l'histoire, hein, notamment ce premier encadré donc qui t'apporte encore plus de détails sur les chauves-souris. Donc si t'en avais vraiment pas encore assez de l'exposé de CE2, on t'en a rajouté. Et alors le deuxième encadré, il fait suite à une astérisque. Et alors moi, l'astérisque, elle m'a fait bondir, puisqu'il y a une référence, la fameuse référence dont tu parlais, une chanson qui s'appelle Boogie Back to Texas, puisque Ernest t'explique que les chauves-souris en hiver, elles migrent, et qu'ensuite, une fois la migration terminée, elles reviennent, elles boogie back to Texas, elles reviennent au Texas en faisant le boogie-woogie avant de faire leur prière du soir, j'imagine. Une autre référence, prend ça Ernest. Et c'est donc une chanson d'un groupe qui s'appelle Asleep at the Wheel, qui est sortie en 1987 sur leur album Ten. Just can't wait, look out boys, I'm headed your way. I got a mind that wanders in a 57 Chevrolet. Hold on tight, I got a license to fly. With a pedal to the metal, watch me roll on by. While I boogie back to Texas.
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 We're gonna boogie back to Texas, 8 feet to the mile. Est-ce que vous connaissiez Sleep at the Wheel ? Moi, je n'en avais strictement jamais entendu parler.
Jamais.
Moi, je connaissais un petit peu parce que j'aime beaucoup la bluegrass. Et du coup, j'avais vu le nom passer, mais ça ne m'a pas plus marqué que ça, comme la quasi-totalité des chansons qui vont être citées dans ce bouquin, j'ai le sentiment.
Ouais.
Mais oui, c'est encadré pour moi. C'était une information tout à fait gratuite qui nous a balancé avec la même insistance désespérée de quelqu'un qui a peur de ne pas être intéressant. En vrai, ça ne m'a pas plus marqué que ça. Je suis passée très vite à autre chose.
Moi, j'ai trouvé ça intéressant que pour une fois, ils prennent le temps d'expliciter une référence, parce que s'ils faisaient la même chose dans le chapitre 1 de Ready Player One, le chapitre 1 ferait 50 pages, tellement il en balance sans jamais expliciter, parce que c'est quand même des références ultra connues, donc il a pas besoin de passer son temps. Là, pour le coup, il a un petit peu pris le temps d'expliquer c'est tel groupe, telle chanson. Bon, ça ne sert strictement à rien, mais il a un peu pris le temps.
T'y habitues pas.
Oui, voilà, on s'y fait quand même pas. Et je me suis un peu demandé, cette référence de 1987, j'aimerais bien savoir à quel enfant à qui on va lire l'histoire, elle va parler. Parce qu'on rappelle que c'est un livre qui est sorti en 2024. Donc, il te sort une référence qui a 35 ans, si mes calculs sont exacts. C'est compliqué quand même. Non, personne n'a envie de rebondir sur c'est compliqué quand même.
Ah non, je suis atterré.
Si. Non, mais ça, c'est parce que moi, je me disais aussi, si j'étais une enfant et que je lisais du Ernest Cline, je ne sais pas si je serais complètement larguée par des références qui ne me concernent pas ou si j'aurais le sentiment qu'il me prend pour une immense demeurée, quoi. Et c'est des sentiments que j'ai ressentis tout le long de la lecture de ces 5 chapitres. Je me suis dit, soit il parle tout seul, c'est une séance d'onanisme complète devant un miroir, quoi.
Là, je vois que t'es en train de yuck le yum d'Ernest Cline et ça me dérange un peu.
Mais tu as raison que là, c'est vraiment c'est un premier coup d'estoc et il va y en avoir plusieurs par la suite, des références qui, honnêtement, ne parlent à aucun enfant et à vrai dire, qui ne parlaient pas globalement à moi non plus, alors que j'ai bientôt 45 balais, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez tendax de faire un livre pour enfants avec que des trucs qui leur parlent pas, enfin, et qui potentiellement ne parlent pas à leurs parents non plus. Enfin, je veux dire, un jeune parent de nos jours, il a on va être généreux, entre 20 et 35 ans. Bon, ça empêche pas qu'il y a des parents plus vieux et plus vieux, hein, bien sûr, mais on va faire une moyenne assez large. Mais qui aura ses rêves, quoi? Alors après, oui, s'ils sont fans de Bluegrass, ils auront peut-être Sleep at the Wheel comme Camille, mais c'est pas pour ça que ça te parle, quoi. Donc je comprends pas pourquoi il se fait chier à faire ça. Alors il faut quand même resituer à quelque chose, c'est qu'à un moment, le narrateur explique que c'est une histoire qui s'est déroulée il y a 30 ou 40 ans. Donc en supposant que le narrateur vive à l'époque actuelle, on va dire vers 2022, ce qui doit être l'époque à laquelle Ernest écrivait son bouquin, entre 30 et 40 ans, ça veut dire que l'action se situe entre 1982 et 1992. Il va y avoir d'autres éléments temporels par la suite qui vont permettre un petit peu mieux de cerner à quelle époque l'histoire se déroule. Mais quelle idée de faire un livre pour enfants dont l'action se déroule dans les années 80? Je veux dire, à part la Ernest Cline et aux adultes qui lisent ce livre pour enfants, à quel enfant ça va parler, quoi?
Et je crois que ça a été vraiment ma première source de frustration, de déception. C'est que on m'a vendu vraiment un bouquin sur des chauves-souris un peu mélomanes, qui aiment la musique et tout ça. Et je voulais connaître leur position sur la prestation de Kendrick Lamar par rapport à Drake. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est leur chanson préférée de Taylor Swift? Non, on va encore se taper des merdes des années 80, en fait. Enfin, des merdes, non, enfin... Enfin, on va encore se taper en fait le délire des années 80 de Cline, quoi.
Oui, voilà, on va encore se retaper que des références incessantes aux années 80 parce que c'est tout ce qu'il connaît, en fait. On a une page entière quasiment dédiée à dire bon, ce qui va suivre, c'est peut-être nawak de différentes manières. Je sais pas si vous avez pris comme ça, mais la dernière page du chapitre, globalement, c'est ça. C'est bon, ma mémoire est pas super, mais globalement, c'est à peu près comme ça que ça s'est déroulé. Alors peut-être que je vais en rajouter des caisses, peut-être que je vais un petit peu enjoliver les choses, mais suivez-moi, l'histoire vaut le coup d'être racontée. Mais sur une page entière pour dire ça,
oui.
Pour dire globalement, je vais vous raconter de la merde.
Avec une mention finale à la Big Old Beautiful Cave.
Voilà, et bien, il en fallait bien une. Le chapitre 2, donc nous faisons connaissance avec notre héroïne, donc Opal B. Flats. Mais avant de faire connaissance avec notre héroïne, nous faisons connaissance avec le Texas Panhandle. Et alors, est-ce que ça a inspiré quelque chose à l'un d'entre vous, le Texas Panhandle? Est-ce que c'était une région du monde que vous désespériez de connaître?
Non, moi, ça m'a inspiré énormément de haine. parce que en tout cas, en version française, je crois que c'est 2 paragraphes pour expliquer à quel point la région de notre héroïne Opal Flats est plate. Et j'ai trouvé que pour le coup, ça avait une certaine résonance avec le style d'écriture qui lui aussi est plutôt uniforme et assez dénué de relief. Mais sinon, d'un inintérêt extraordinaire, ça nous projette dans une région dont on n'a rien à foutre. Donc non, pas ravi de cette introduction.
Alors, le plus fort, c'est que la ville de Lubbock, donc je me suis un petit peu renseigné, ville de 200 000 habitants, au milieu des grandes plaines. Il suffisait de dire que c'était au milieu des grandes plaines et tu comprenais que c'était plat, en fait. Mais comme tu dis, il a fallu qu'il se tape des paragraphes et des paragraphes, avec en plus sa super vanne sur Level Land dont tout le monde se branle, mais dont l'héroïne a l'air d'être super fière parce que « Wouhou, j'ai trop une petite maline !» C'est incroyable. Et donc le Texas Panhandle, c'est cette région au nord du Texas qui globalement compte 26 comtés et qui est rectangulaire. C'est un rectangle. Tu mets les 26 comtés ensemble et c'est donc cette région du nord qui dépasse un petit peu. Et Panhandle, parce que littéralement, hein, Panhandle, poignée de poils, c'est littéralement la traduction et c'est littéralement ce que c'est censé représenter. Alors derrière, Ernest t'explique qu'il y a des poils en forme de Texas Panhandle parce que c'est formidable, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, c'est ça qui est fou.
Est-ce que vous aviez aussi la petite illustration de la poêle où le manche n'est pas au bon endroit et du coup ça agace l'héroïne ?
Oui.
Bien entendu.
Ah d'accord, ok.
Je pense qu'on a exactement les mêmes illustrations, en fait. Je pense qu'ils ont copié-collé toutes les illustrations d'un pays à l'autre, enfin d'une version à l'autre. Mais oui, on a également ça. Et donc, oui, on sent que notre héroïne, elle a des agacements bien, bien compréhensibles. On nous présente Maman Géraldine. Et Maman Géraldine, c'est une couturière qui fait des costumes en patchwork qui ont vraiment l'air tout ripou et dont les autres à l'école se moquent. Mais c'est parce qu'ils sont jaloux. Et alors moi, personnellement, ça m'a beaucoup fait penser à Kira, la graphic designer avec ses monogrammes pourlingues qui faisait des grosses lettres. Et notamment, bah là, sur son costume en patchwork, elle a un gros O géant sur son costume turquoise. Et donc oui, j'ai repensé à Camille quand tu nous avais expliqué à quel point Kira, bah, en fait, en matière de graphic design, elle était un petit peu nulle à yèche, quoi. Et là, bah, Géraldine, ça a l'air d'être la même chose en couturière.
Oui, et puis, alors moi, ce qui m'a vachement marqué, c'est donc ce truc, cette espèce de façon d'antagoniser les autres. Tu sais, Opal et sa mère sont toujours présentés comme des êtres un peu exceptionnels, bizarres, incomprises par une société qui est globalement terne par rapport à leur solarité généralisée. Alors que leur seule originalité, ça se résume à vivre dans une région plate, écouter de la musique et porter des vêtements moches. C'est pas révolutionnaire et pourtant on nous vend ça comme une bizarrerie quasi mystique. Du coup, voilà, moi j'en ai retenu ça. Les vêtements moches.
C'est une bizarrerie plus ou moins de famille en plus. Hein. Globalement, les flats, c'était des bizarres. Le côté de sa mère, l'écharpe, c'était des bizarres, mais on t'explique pas vraiment ce qu'on faisait des gens bizarres, quoi.
C'est ça. Et on nous force la main pour qu'on se dise, ah ouais, c'est vrai, vu qu'il le dit tellement, ça doit vraiment être des marginaux, complètement en dehors des normes, quoi. Alors que,
et ça vient souvent,
bah,
en
ils
plus,
sont hein. juste mal fringués, quoi.
Mais les autres, les normies, c'est les méchants, quoi.
C'est ça. En fait, il y a une espèce d'auto-congratulation constante sur, bah, genre leur unicité, le fait qu'ils soient extrêmement différents, et ceux qui les critiquent sont forcément des abrutis de dernier rang, quoi.
C'est des jaloux. Opal, on apprend qu'elle est fan de Buddy Holly, qui est lui aussi de Lubbock. Every day, it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. It's a-getting faster, everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Alors Buddy Holly, c'est quand même un chanteur qui, aux États-Unis, a encore une certaine aura, même de nos jours, mais qui est mort en 1959, quoi, avec Ritchie Valens et Jerry Richardson, dans un accident d'avion. Ce qui a inspiré d'ailleurs la chanson American Pie de Don McLean, dans laquelle on t'explique que c'est le jour où la musique est morte, le 3 février 1959. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write... une chanson que je connais grâce, enfin que je connaissais déjà, mais qui est connue aussi grâce au film Black Widow, puisque c'est la chanson qu'elle chante dans la voiture au début du film. Et voilà, moi aussi je t'en fais des références pop culture, Ernest. Une belle chanson, la chanson American Pie, qui n'a rien à voir avec le film du même nom, par contre, en revanche. Mais tout ça pour dire que Buddy Holly, en fait, la raison pour laquelle Opal en est si fan, c'est que, étant donné qu'il était de Lubbock, il passe encore à la radio. Moi, j'ai envie de dire, il est mort en 59. Oui, il doit encore passer à la radio derrière, mais Opal, elle écoute que Buddy Holly. Elle écoute rien d'autre. Elle fait une fixation limite malsaine sur Buddy Holly qu'elle écoute en boucle. Alors, je sais que chez un enfant, les fixations, ça peut arriver, mais elle a 13 piges quand même. C'est quand même assez étrange, je trouve, qu'elle écoute en boucle un type mort en 1959. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve ça vraiment curieux, en fait, comme choix.
Je t'avoue que dans l'ensemble, c'est pas le truc qui m'a le plus marqué. Il y a un moment, elle parle de son obsession avec Buddy Holly, mais c'est pas lié à des lunettes qu'elle doit porter et qui fait que...
Ah, c'est après, en fait, quand il faut qu'elle porte des lunettes. Ouais. Et en fait, qu'elle déteste l'idée de porter des lunettes, mais que, en fait, on lui trouve des lunettes qui sont les mêmes que celles de Buddy Holly, puis d'un coup, elle est OK avec l'idée de porter des lunettes, quoi.
OK.
Parce que Buddy Holly est aussi connu pour, il avait des lunettes à large monture, qu'on appelle chez nous les lunettes Gameblog. C'est comme ça qu'on les connaît, en fait, à une époque. Si vous connaissiez Gameblog à une certaine époque, vous verrez de quelles lunettes je parle. Il y a un encadré, une fois de plus, qui dit exactement la même chose que ce qui avait été expliqué juste avant sur Buddy Holly, donc j'ai pas compris, à part montrer sa tête, en fait, sur un dessin.
Oui, il y a une espèce de fiche de personnage avec un croquis de Buddy Holly, comme si on pouvait l'incarner.
C'est ça. Ces encadrés, moi, maintenant, je pense que ce sont des extraits de son scratchbook, dont il est ensuite fait mention. Alors, qu'est-ce qu'un scratchbook? Eh bien, c'est un mix entre un scrapbook et un sketchbook. Incroyable! Alors, le néologisme, c'est son dada, Ernest. Il va t'en faire plusieurs par la suite, et je pense qu'il en est tellement fier qu'il écrit scratchbook je sais pas combien de fois. En gros, quand elle écrit dans le cahier, elle scratch. Elle n'est pas en train d'écrire, elle est en train de scratcher. Et donc c'est comme ça qu'on t'explique qu'elle et sa mère, elles sont weird, comme tu l'as dit, voilà, c'est le terme weird, probablement bizarre en français, une manière de dire qu'elles ont pas d'amis globalement, hein. Le terme weird arrive 11 fois sur une seule page.
Oui, c'est vraiment pour marquer une forme de... Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris non plus, je me suis dit, mais si elles sont si bizarres, si elles sont tellement exceptionnelles, quoi, donne-moi des preuves, donne-moi des choses à me mettre sous la dent, mais vraiment, il y a rien à part, elle a des fringues moches. C'est le seul truc.
C'est Freaks and Geeks, mais le seul truc, c'est qu'elles sont mal sapées, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on parle autant de la maman mais pas du papa? Eh bien, c'est parce que le papa, Fred D. Flats, avec une initiale, donc un D qui ne veut rien dire, ce qui fait que la famille Flats, ils sont weird parce qu'ils s'amusent à avoir des initiales qui veulent rien dire. C'est littéralement ce que dit le bouquin. Le papa, elle l'a rencontré à un festival de musique. Attention, c'est l'occasion d'un nouveau needle drop. Ou sur une chanson de Waylon Jennings et Willie Nelson, ils se sont rencontrés. A long time forgotten. Our dreams had just fell by the way. And the good life he promised ain't what she's living today. But she never complains of the bad times or bad things he's done, Lord. She just talks about the good times they've had and all the good times. She's a good-hearted woman in love with a good time in man. She loves him in spite of his ways that she don't understand. Alors, Waylon Jennings, ça me parlait pas, mais Willie Nelson, ça me parlait un petit peu, parce que je connaissais au moins deux noms. Toi, qui es fan de Bluegrass, ça doit un peu te causer quand même, un minimum. Ouais. Puisque Willie Nelson, on peut dire que c'est de la musique country assez old school. On n'est pas sur les nouveaux sons de la musique country que peut faire, je sais pas, Garth Brooks ou les Dixie Chicks ou des trucs comme ça. On est vraiment sur quelque chose de plus old school. Mais c'est de la musique country qui est aussi militante. Willie Nelson est très militant. Le père décède quelques mois avant le décès d'Opal, puisqu'il était conscrit pour la guerre du Vietnam. Et là encore, j'ai fait mes petites recherches. La période de conscription pour le Vietnam, c'était de 69 à 72. Donc on rajoute 13 ans, vu que c'est l'âge d'Opal. Ça signifie que l'action se déroule entre 1982 et 1985. Ouf, ça y est, on a réussi un petit peu à réduire. Donc du coup, on est vraiment dans le côté ancien de la fourchette qu'on avait. Qui pour moi est toujours un choix incompréhensible. Enfin, je veux dire, je pense que c'est parce qu'Ernest est plus à l'aise sur les références des années 82 que de parler de Bluey et de Dua Lipa. Mais malheureusement, pour les enfants, ça va vraiment pas leur parler, quoi.
Ouais, mais il continue quand même à essayer de parler aux enfants dans sa manière d'écrire. Je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, il y a 3 lignes où il explique, voilà, je suis mélomane, et il essaye d'expliquer ce qu'est une personne mélomane, en disant, c'est un mélange de mélodie et de maniaque. Donc en fait, t'as 12 ans, tout ce bouquin, tu ne sais pas ce qu'est un mélomane, t'as la définition, c'est comme pour les chauves-souris avant. En revanche,
c'est vrai.
En revanche, quelques pages plus tard, en fait, il y a un mot qui vient, qui est en l'occurrence astigmatisme. Bah si tu sais pas ce que c'est, bah tu vas bien te faire foutre.
En gros, c'est le mot compliqué pour dire que t'as besoin d'être binoclard, mais heureusement que tu trouves les mêmes lunettes que Buddy Holly, quoi.
Voilà, mais à 12 ans, ça, ce mot, tu le connais, mais mélomane, non.
Et elle mentionne que ses lunettes, d'ailleurs, quand elle les porte, personne n'a jamais eu l'air plus cool que Buddy Holly, à part Elvis, on rappelle qu'elle avait entre 5 et 8 ans quand Elvis est mort, et James Brown. Donc là encore, même si James Brown était encore en vie jusque vachement plus tard... C'est pas des références qui parlent aux enfants, ça. C'est pas du tout des références qui parlent aux enfants, Ernest.
Mais en fait, je me suis posé la question, je me suis dit peut-être qu'elle avait grandi, vu que bah, tout le monde la déteste, elle et sa mère, enfin, les déteste. peut-être qu'elle a évolué dans un huis clos total où le temps s'est arrêté, tu sais. Et peut-être qu'au final, Bridge to Bad City, c'est un roman historique, d'une certaine manière.
Non, mais après, ce qui est possible, et pour le coup, pour Buddy Holly, étant donné qu'il est de Lubbock, et peut-être que les radios locales de Lubbock passent spécifiquement du Buddy Holly, et du Elvis et du James Brown, mais ça veut dire que globalement, elle est bloquée sur les radios locales qui passent uniquement les vieux trucs. Parce que il y avait quand même de la musique plus moderne dans les années 80, mine de rien.
Ouais, mais tu vois, j'ai grandi avec nostalgie, ça m'empêche pas d'avoir, d'être sorti quand même un petit peu des clous assez rapidement, quoi. C'est pas parce que tes grands-parents ou tes parents, ils écoutent Sardou que t'es obligé d'être coincé dans la spirale toute ta vie.
Tu veux dire que Ernest Cline écrirait des personnages monomaniaques? C'est ça qu'on est en train de dire?
Non, j'oserais pas.
Et n'empêche que c'est ce qui clôt ce chapitre 2, on en sait un peu plus sur Opal, notamment sur sa mère et sur son père.
Alors je suis désolée de t'interrompre, mais moi il y a une phrase...
J'ai oublié quelque chose.
Non, mais il y a une phrase en français qui moi m'a... Enfin, elle m'a laissée mais complètement interdite, quoi. Je pense que ça ne vous a pas autant marqué en VO. Je vais vous lire cette phrase et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais Opal ne se laissait jamais trop accabler par ses remarques, parce que sa mère était un peu en forme de tonneau, et Opal estimait qu'elle était de loin la femme la plus belle du monde.
Oui, en gros, on t'explique de manière très kleinesque que Opal est en surpoids et sa mère aussi, mais c'est pas un problème.
Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un problème de traduction? Est-ce que c'est maladresse stylistique? Enfin, c'était impossible de trancher. Le seul truc qui m'est venu en tête, c'est, je me suis dit, cette phrase ne devrait pas exister. On n'avait pas, enfin, ça n'apporte rien au schmilblick.
On l'a en anglais.
C'est comme ça en VO aussi.
Barrel shaped. Oh donc, oui, on l'a aussi.
C'est affligeant.
Oui.
Et il y a même un jeu de mots sur le fait que flat is round, alors que, en fait, comme elle est, enfin, plate, elle devrait pas être ronde. Donc voilà, flat, voilà. Voilà.
Je sais pas s'il a voulu se donner un côté peut-être mec hyper ouvert d'esprit, il a balancé ça à l'arrache, la personne est grosse, ok, on passe à autre chose. Mais juste la traduction, la référence au tonneau, ça m'a laissé mais complètement quoi. J'étais abattue.
Bah oui, le mot tonneau, il est dur. Enfin,
il est d'une violence terrible.
Bah, c'est la conception kleinesque de l'ouverture d'esprit. Souviens-toi Daesh, la noire obèse homosexuelle.
Ah oui, voilà. C'est vrai, c'est ça.
Faut pas l'oublier. Mais oui, effectivement, barrel shaped, on l'avait zappé. En forme de tonneau, donc. Une belle description. Globalement, c'est physiquement tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle porte les lunettes de Buddy Holly et qu'elle est grosse.
Et qu'elle a des vêtements moches.
Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aucune description de son visage, d'à quoi elle ressemble, de la couleur de ses cheveux. Y a que dalle. On sait juste qu'elle ressemble à un tonneau avec les lunettes de Buddy Holly.
Je suis trop content parce que là, en fait, ça amène, mais vraiment sur un tapis rouge, tout le chapitre 3 qui arrive, quoi. Écoute, tout ce que tu viens de dire, ça amène ça, mais c'est beau.
Je pense que c'est important de préciser pour notre audience que Brice a passé un excellent moment pendant le chapitre 3 et qu'il a clamé haut et fort que c'était son chapitre préféré de cette semaine.
Son préféré. Écoute, Brice, je te l'offre sur un plateau d'argent.
Merci.
Parle-nous de ce chapitre 3 que personnellement, j'ai appelé « Ce matin, maman est morte ». À toi.
Alors, il y a quelque chose que j'admire énormément chez Ernest Cline, c'est son sens de la subtilité. C'est un peu... Mais, vraiment, la subtilité d'un 38 tonnes, mais aussi qui n'est pas qui me rappelle un peu ce mème que vous connaissez un peu si vous allez sur TikTok, qui s'appelle le Subtle Foreshadowing, où oui. Tu vois une action qui est en train de se dérouler, et juste après, mais vraiment, qui dure une demi-seconde, tu vois les conséquences horribles que ça a, et puis après, l'action redevient normale. Et là, c'est ce qu'on a, où on nous introduit un nouveau personnage, et le talent de foreshadowing de Cline, en deux mots, en deux accessoires, arrive à nous définir tout le personnage. On sait déjà tout ce qui va se passer dans le bouquin. Donc, introduction du personnage de l'oncle Roscoe. Oncle Roscoe, donc, tu en parlais tout à l'heure, les descriptions des personnages de Cline, elles sont assez brèves. Et Roscoe, on a vraiment que deux éléments à son sujet. Deux.
Ouais.
Il a une voiture rouge, qu'il appelle une Rambler. Enfin, c'est la marque de la voiture, ouais. D'ailleurs. Le modèle. Mais surtout, il a un chapeau de cow-boy blanc qui l'orne fièrement d'un circuit imprimé.
Attendez.
C'est exactement ce que j'ai écrit. J'ai écrit ça.
Imaginez ma joie.
Roscoe, le tonton geek avec un chapeau, avec un circuit imprimé dessus. Voilà, point.
Je me permets, moi j'avais noté quelque chose, mais la VF est extraordinaire. Sa bagnole, il l'appelle la baladeuse.
Ça, c'est après, ça.
Alors, oui. En fait, c'est dans le chapitre 4 où on t'explique que c'est un AMC Rambler classique qui est un modèle de break. Et là, je spoil complètement le chapitre 4. Mais du coup, pour la VF, il devait être emmerdé parce que ensuite, Cline fait de Rambler un verbe, un nom commun. Enfin, il l'utilise dans tous les sens. Comme Scratchbook, en fait. C'est un truc qu'il a sorti de son cul et qu'il s'est dit, oh, c'est trop génial, je vais l'utiliser partout. Et donc, ouais, pour la VF, ils ont dû être bien embêtés. Mais oui, tu l'as dit, Brice. Voilà, l'oncle Roscoe, tout ce qu'on en sait, c'est un geek.
Voilà.
Il a un circuit imprimé sur son chapeau et une voiture rouge.
Et du coup, tout ce qu'on va lire pendant, et je vous le garantis, ces prochaines semaines sur oncle Roscoe, ça va être en trait avec sa bagnole et des trucs de geek. Rien d'autre. Mais vraiment, rien d'autre. Ça va être tout le personnage et ça va être un désastre. Et je me régale d'avance. Quand j'ai lu ça, quand j'ai vu le circuit, enfin, oui, je l'ai visualisé. Vraiment, le circuit imprimé sur le chapeau de cow-boy. Merci, Ernest. Et d'ailleurs, mensonge, j'ai menti. Pas deux éléments. Il y en a un troisième qui fait écho à quelque chose qu'on a vu au chapitre précédent et qui pourrait nous aider aussi un peu à renommer ce podcast puisqu'on nous sommes maintenant visiblement dans les lunettes de qui déjà, puisque du coup, oncle Roscoe a les lunettes de John Lennon.
Et il a aussi une veste en jean moche faite par la mère d'Opal.
Oui. Aussi. Mais ce personnage, il n'est pas là pour rien. Il est dans le coin, il est là, mais il y a une raison pour sa venue. Donc parce que là, je suis allé dans les descriptions, pourquoi ce chapitre me rend heureux, tout ça. Mais il y a un événement triste qui est en train d'arriver. Il est là parce que il est arrivé aussi vite qu'il a pu. Il est triste sur les escaliers de la maison parce que il a une mauvaise nouvelle à annoncer à Opal. Et qu'est-ce que vous faites vous quand vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer à quelqu'un? Quand vous préparez quelque chose, vous faites quoi?
Alors j'essaye de ménager la personne à la mauvaise nouvelle qui arrive, tu vois, j'essaie de la mettre un petit peu en confort, histoire de que le choc soit moins rude, tu vois.
Ok, Camille, tu ferais quoi?
Je pense que je bois. non, c'est une très très mauvaise idée. Non, je pense que je suis un petit peu pareil, j'essaye de faire, d'amener la chose de la manière la moins douloureuse possible.
Ok, mauvaise réponse. non, il suffit en fait de sortir de ta poche une cartouche de jeu d'Atari.
Ah, putain,
littéralement, après avoir salué du coup ta nièce, sans contexte, rien du tout, elle te voit en train de chialer devant sa baraque, tu sors de ta poche une cartouche sur laquelle il est écrit, alors j'ai oublié le nom du jeu,
Megamania.
Et c'est d'ailleurs ce truc insupportable aussi, c'est que à aucun moment il y a écrit oui c'était la cartouche de Megamania, c'est oh là là, c'est une cartouche rouge sur laquelle il est écrit Megamania. Frère, les descriptions de Cline, voilà, l'annonce du décès, l'enterrement, tout ça, parce que toutes mes notes c'était vraiment tout sur ça.
Moi, j'ai noté, donc, pour son 9e anniversaire, donc, entre 78 et 81, il lui a offert une Atari 2600 parce que c'est le tonton geek. Au passage, en termes de référence pop culture, moi, à chaque fois qu'il disait Roscoe, je visualisais Roscoe P. Coltrane de Sheriff et moi peur, parce que je ne connais pas d'autres personnages fictifs ou même réels qui s'appellent Roscoe.
Moi, j'ai connu un cheval qui s'appelait Roscoe.
C'est vrai ? Donc toi, tu visualises un cheval, peut-être, quand tu lis Roscoe ?
C'est un nom de cheval.
Ouais, un petit Shetland, enfin, un petit cheval hyper sympa. Ouais, Roscoe.
Est-ce qu'il porte un chapeau de cow-boy ?
Non.
Parce que moi, du coup...
Mais il avait les lunettes de John Lennon.
Ah, quand même. Moi, tu vois, du coup, je fais un amalgame entre... donc, si vous connaissez pas Sheriff Fais-moi peur, ceci ne va absolument pas vous parler, parce que c'est une référence kleinesque. Hein. C'est une série des années 70 que moi, je regardais dans les années 80 quand j'avais la 5. Donc Roscoe P. Coltrane, c'est le shérif, le fameux shérif qui est censé te faire peur dans le titre, qui poursuit deux jeunes hommes qui conduisent une voiture de manière un petit peu sportive et un petit peu illégale. Et Roscoe a un chef qui s'appelle Boss Hogg, et Boss Hogg porte un chapeau de cow-boy blanc. Donc du coup, quand je visualise le tonton geek, je fais un amalgame entre le visage de Roscoe P. Coltrane et le chapeau de Boss Hogg. Voilà, donc si vous connaissiez la série Sheriff Fais-moi peur, maintenant vous avez cette image en tête. Je ne m'excuserai pas, c'est bien fait pour vous. Étant donné que on découvre qu'une cartouche d'Atari 2600, ça, selon son tonton, devrait permettre à la douleur d'être un petit peu moindre, on devine donc que Opal est une turbo-nerd qui joue aux jeux vidéo. Alors c'est assez pratique pour Ernest, son héroïne est globalement identique à ses personnages d'habitude, quoi. Ça le change pas trop en fait. Il a pas tellement besoin d'en faire une fille, il suffit d'en faire une nerd, c'est moins compliqué à écrire.
Oui c'est ça, il se calque sur les personnages de Ready Player One et Ready Player Two, c'est exactement la même chose, avec des lunettes de Buddy Holly et une forme de tonneau.
Mais en même temps, il écrit ce qu'il connaît, est-ce que c'est pas plus mal, parce que quand il essaie d'écrire des personnages féminins, globalement c'est
oui,
une
c'est
catastrophe,
vrai,
donc là... Autant qu'elle soit pas définie par ça, autant que ce soit juste une nerd qui écoute Buddy Holly.
Ah, elle est pas mal, là. Enfin, sa mère est morte. vous semblez, je sais pas, enfin, je dis ça encore une fois, mes notes ne couvrent absolument pas ce passage, mais on parle de l'annonce d'un décès.
Mais justement, moi, j'aimerais bien pouvoir en
mais
parler.
Mais c'est expédié en deux
voilà,
lignes.
Voilà, moi, je trouve
quoi,
que c'est expédié avec la froideur d'un formulaire administratif, quoi, en deux phrases. Alors que il y a quasiment la moitié du chapitre qui est dédié au chapeau de cow-boy et aux jeux vidéo, quoi.
C'est-à-dire le chapitre précédent, il prenait une demi-page pour parler des costumes en patchwork dégueulasse, mais là pour son décès, c'est vraiment expédié super vite, quoi. Donc ouais, je t'avoue, j'étais un petit peu stupéfait par la rapidité avec laquelle tout se déroulait, parce qu'on parle vraiment de chapitres qui font quelques pages de long, quoi. C'est pas comme si non plus il prenait des heures et des heures. Genre, le service funéraire, on t'explique que globalement tout ce qu'on en apprend, c'est que Opal joue une chanson, là encore, Needle Drop, hein, qu'elle joue Spirit in the Sky de Norman Greenbaum, une chanson que je connais. Que c'était ça.
Attends.
Mais je l'ai écouté et je dis ah mais je connais ce morceau.
Parce que là je trouve que tu vas très vite en besogne, parce que donc la mère meurt en deux lignes, et ensuite dans la version française Ernest Cline nous dit, dans un élan d'empathie forcé, il essaie d'injecter un petit peu d'émotion et dit: je sais que cette partie de l'histoire est terriblement triste et qu'à présent vous éprouvez beaucoup de chagrin pour Opal. Mais absolument
pas.
Je viens à peine de faire la connaissance de cet enfant et de sa mère. Je les ai tout de suite trouvés imbuvables. J'ai aucune empathie pour eux. Elle est orpheline et en vrai, j'ai le sentiment que ici, tout le monde s'en fout, quoi.
C'est que les personnages, tu les connais pas en fait. Étant donné que, comme tu l'as dit, tout ce qu'on sait d'Opal, c'est qu'elle a lunette de Buddy Holly, une forme de tonneau, et qu'elle a pas d'amis. Enfin, j'ai pas envie d'être son ami non plus, en fait. Cette meuf-là, bon, bah, ok, soit, ok, ta mère est morte, c'est triste, mais bon, honnêtement, c'est raconté de telle manière que ouais, je m'en bats les couilles. Et c'est vrai que cette insistance.
Mais il n'y a eu aucun build-up en fait.
Ouais, il n'y a rien.
Je trouve ça exceptionnel pour un mec qui se dit mélomane. Il est amusique le mec. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'émotion. Je me suis senti giflée par ce truc-là, puis je suis passée à autre chose quoi.
Et le pire, c'est qu'il y a vraiment des moyens très simples de rendre ça. De rendre ça fort émotionnellement, et même pas forcément beaucoup plus de lignes en fait, mais c'est juste qu'il a pas le talent de le faire finalement.
Je pense qu'à partir du moment où il faut éprouver des sentiments, c'est un exercice de style qui lui est très difficile.
Oh, mais t'écris pas.
De quoi ?
T'écris pas du coup, t'écris pas des romans.
Moi je pense qu'à partir du moment où c'est quelque chose qu'il peut pas décrire avec un needle drop ou une référence à un jeu vidéo, il s'en sort pas quoi.
Bah ouais.
Tout simplement.
Mais du coup, on passe à la partie suivante qui est, comme tu le disais, l'enterrement.
L'enterrement. Et alors, l'enterrement, c'est pareil, c'est expédié en deux-deux. On sait pas qui est présent. On sait pas exactement à quoi consistait le service funéraire, à part Opal, qui donc va jouer ce morceau sur sa boombox qui lui a été offerte il y a pas longtemps en boucle sur la cassette, quoi.
On sait même pas ce qu'il y avait à manger.
C'est ça, on sait pas ce qu'il y avait au buffet. Non, et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que donc, du coup, c'est une cassette avec un seul morceau des deux côtés, donc c'est le même morceau des deux faces sur les deux faces de la cassette, et elle va juste l'imposer à tous,
ouais.
Genre elle va lancer le truc et la même chanson va juste tourner en boucle sans se poser la question de si ça convient aux autres. C'est vraiment genre c'est mon deuil et vous allez le subir avec moi quoi. Et puis il y a autre chose qui moi en tant que fan de tout ce qui est milieu funéraire, c'est ma bizarrerie à moi, je suis extrêmement spéciale.
Tu es un peu bizarre.
Je suis extrêmement extrêmement marginale et hors du commun. moi ce qui m'a rendu complètement maboulos, c'est le fait que tout le monde est venu avec des fringues qui étaient donc créées par la mère. Ça veut dire que ça doit être un espèce de carnaval au funérarium. Il y a un smoking turquoise, une veste en jean incrustée de pierres précieuses. Enfin, vraiment, c'est une mise en scène qui est complètement grotesque, qui, à mes yeux, est une insulte au deuil. C'est une parade de mauvais goût où tout le monde semble déterminé à faire de ce moment de recueillement qui est un peu censé être spirituel. C'est une véritable parade, quoi. Il faut se démarquer car on est bizarre, et ce, même au funérarium, même dans les lieux saints. Mais moi, perso, tu viens aux obsèques d'un de mes proches fagoté comme une boule à facettes, je pense que je te noie dans le bénitier. Du coup, ça m'a mise hors de moi.
Alors, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en plus, t'as des dessins qui représentent le costard en question pour bien te montrer à quel point ils sont moches. Et ce qui est fou, tu l'as dit, c'est que, étant donné qu'on a très très peu de détails sur qui est présent dans l'assistance, parce que je me doute que il y a peut-être aussi des gens, entre guillemets, pas bizarres, qui assistent à l'enterrement, genre, elle a peut-être eu des collègues ou peut-être que la maman avait des amis, on sait pas. Globalement, on sait qu'Opal, elle en a pas, mais la maman, peut-être qu'elle en avait. Et peut-être que eux étaient habillés de manière un peu plus conventionnelle pour un enterrement, si tu veux. Donc, quand ils voient arriver l'autre avec son costume turquoise et le gars avec sa veste en jean, après, bon, les enterrements, chacun y va un peu, chacun gère son deuil comme il le veut, si vous voulez, mais c'est quand même très particulier. Et le fait, voilà, qu'Opal ne fasse pas le moindre discours, elle se pointe sur scène, elle pose la boombox, elle lance la chanson et elle se casse. Ok. Merci meuf, quoi. Je veux dire, ok, t'es peut-être une gamine de 13 ans, mais tu peux peut-être avoir au moins un ou deux mots pour ta mère qui vient de mourir brutalement, plutôt que juste de jouer une chanson sous prétexte que c'est une chanson qu'elle aimait bien, quoi.
La pauvre, on l'a quand même arrachée à au moins deux jours de partie intense de Megamania.
C'est vrai.
C'est vrai qu'on t'explique que Megamania l'aide à survivre à son deuil et qu'elle y joue de manière obsessionnelle, donc oui.
Et est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué dans ce chapitre ?
Je pense que c'est quasiment la fin, parce que j'ai noté que Roscoe adopte sa nièce parce que c'est comme ça et ils s'en vont pour Austin. Ça veut dire que tout le bordel sur Lubbock et le Texas Panhandle, en fait, on s'en battait les steaks.
Je suis en train de feuilleter un peu, ouais, il y a juste une exploration du cimetière, les tombes sont là, voilà. Enfin, il y a rien d'autre d'intéressant, quoi.
Alors moi, il y a une phrase. Je me permets de quote, hein, parce que je pense que la phrase dans la VF parle d'elle-même. Opal est donc en train d'enterrer sa mère dans le cimetière, et ça dit. Opal essaya de ne pas regarder la parcelle vide à côté des tombes de ses parents. Elle savait qu'elle était réservée pour elle-même.
Oui.
Et donc du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, qui prévoit la tombe d'une enfant de 13 ans ? Alors peut-être que c'est quelque chose de culturel que je maîtrise pas du tout, mais je trouve ça d'un lugubre extraordinaire. Alors, on n'est pas à l'époque victorienne, hein, quand même. Les enfants ne clamsent pas aussi rapidement. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est une simple précaution administrative? Est-ce que c'est un choix symbolique?
Je pense que c'est juste symbolique. Hein.
Une prémonition? Ou alors, est-ce que tout le monde a finalement remarqué qu'elle était odieuse et que c'était peut-être temps d'en finir?
C'est la suivante.
Mais je crois que c'était une conclusion au troisième chapitre absolument terrible et
c'est
macabre.
C'est vrai que c'est extrêmement lugubre, mais les concessions familiales, après, ça existe, c'est un truc qui est réel, notamment dans les
Les caveaux, tout
ouais,
ça.
Mais c'est vrai que pourquoi est-ce que cet espace spécifiquement serait réservé à Opal?
C'est bon, ça, c'est la parcelle vide dans le texte. La parcelle vide, ça veut dire
le fait que Opal soit parfaitement au courant dessus et ne se fasse aucune illusion. C'est vrai que c'est extrêmement morbide.
Il y a zéro mystère, c'est là que je vais pourrir. Après, j'aime bien, il y a une forme de fatalité qui est quelque part un peu rassurante vu le mystère que la mort et les obsèques peuvent être. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était particulièrement pragmatique et peut-être un peu trop cool, justement.
Ouais. Ouais, je comprends. Brice, tu avais quelque chose pour conclure ce chapitre 3 ?
J'espère vraiment que les chapitres suivants, on aura un nouveau chapitre à la hauteur de ça. Mais visiblement, il nous faut une mort tragique, il nous faut l'introduction d'un nouveau personnage. Je sais pas, je sais vraiment pas ce qu'ils vont nous mettre.
Tu penses que si tonton Roscoe meurt, il aura 4 lignes et pas 2 ?
Ah, il n'est pas écrit comme quelqu'un qui va mourir. Comme je t'ai dit, c'est très... Il n'y a pas encore de red flag. Je pense vraiment que ça va être l'oncle Geeko, c'est... Et ça va être ça. Après, peut-être que dans 2 semaines, je devrais présenter mes excuses parce qu'il va bêtement crever. Hein, mais
il va crever, il sera enterré avec une cartouche de Pitfall.
Non, mais il va crever en 2 lignes. Il faudra pas cligner des yeux, quoi.
Très bien. Ben, on peut attaquer donc le chapitre 4, un chapitre qui fait donc un usage abondant du terme rambling, puisque donc on l'a dit. L'oncle Roscoe conduit un break, en anglais ça s'appelle un station wagon, en français on dit un break. Je ne connais pas l'origine de cet anglicisme, c'est un peu bizarre qu'on utilise le terme break, mais si vous l'avez, dites-le nous dans les commentaires, ou peut-être Camille ou Brice, vous savez pourquoi on dit un break en français?
Non.
Je ne sais pas pourquoi, mais donc c'est un AMC Rambler classique, est-ce qu'en français, ils ont expliqué que c'était un AMC Rambler classique, donc traduit en baladeur, ou ils n'ont pas pris cette peine?
Je t'avoue que j'ai pas le texte là sous les yeux, j'ai juste mes notes. Mais ce qui m'a marqué, c'est plutôt le petit surnom, j'ai pas noté. Il me semble qu'il y a quand même, le nom de la bagnole, oui.
Ouais. Et donc, Ernest donc, procède à utiliser le terme rambling ou rambler dans toutes les formes possibles, tout le long du chapitre. Hein, il ramble jusqu'à Whataburger. Il ramble quand il conduit jusqu'à son travail. Enfin, en gros, ils passent leur temps à rambling. Et puis pendant ce temps-là, Opal écoute les Greatest Hits de Buddy Holly 3 ou 4 fois parce que elle est un petit peu obsessive, hein, cette gamine.
Ouais, moi, ce qui m'a marqué encore une fois, c'est la baladeuse. Je trouve que automatiquement, ça donne une dimension un peu perverse au personnage. Ça m'a rappelé le pussy wagon de Kill Bill. donc du coup, je me suis dit, c'est un surnom qui m'évoque immédiatement un homme avec des grosses lunettes teintées, un sourire carnassier, garé au bord d'une route déserte, porte passager entrouverte. Enfin, je trouve que baladeuse, moi, immédiatement, je trouve que ça fait un peu pépé pervers, quoi. Du coup,
on ne yuck pas.
Pardon, excuse-moi de yucker. Ah non, j'ai encore yucké sur Ernest Klein.
Tu as yucké sur un yum d'Ernest, alors...
On ne king-shame pas.
Pendant cette pause déj à Whataburger, on apprend que Roscoe, il gère la ferme, mais dans son cœur, c'est un geek. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire de l'ordinateur, mais malheureusement, il a été obligé de s'occuper de la ferme familiale. Et là, c'est compliqué. C'est triste, hein. On est pris un petit peu d'affection pour ce pauvre personnage obligé de travailler à la ferme. Non? Pas vous?
Pas tant, non.
Tout le monde s'en fout de l'oncle Roscoe. C'est pas très sympa, hein. Pas de cartouche d'Atari 2600 pour vous, je vous le dis.
Oh non!
S'ensuit un needle drop avec If You Want to Sing Out, Sing Out de Cat Stevens. Alors je connaissais Cat Stevens, mais je ne connaissais pas cette chanson, qui est une chanson sympathique, ma foi, un peu triste. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, 'cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, 'cause there's a million ways to go, you know that there are.
opportunities are. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo, you see.
Qui a priori est un peu sappy pour notre héroïne, puisqu'elle est à la fois triste et joyeuse. Je sais pas si vous avez eu la chance d'écouter cette chanson. Bon, écoutez, je ne la connaissais pas, donc on peut pas dire que c'est un classique que les jeunes de nos jours connaîtront. Ou alors peut-être c'est juste moi. Hein. Peut-être que je préjuge un peu trop facilement des connaissances musicales des jeunes générations de nos jours. Peut-être qu'un enfant de 8 ans en 2024 connaîtra Cat Stevens. Ou peut-être qu'il connaîtra Youssouf Islam, qui est son nom actuel.
Peut-être en héritage familial, oui, ce serait pas... je sais pas.
Et d'ailleurs, est-ce que vous, quand vous étiez enfant, vous écoutiez beaucoup la musique que vos parents écoutaient, ou est-ce qu'à l'inverse, vous faisiez un blocage complet et un rejet complet ?
Moi, je dois beaucoup à mon papa pour tout ce qui est rock, blues, jazz, des trucs comme ça. Il m'a fait écouter des trucs un peu particuliers, comme Robert Wyatt ou Wyatt, je sais pas, qui faisait des concertos pour hélicoptère ou des trucs comme ça. Il m'a quand même initié à des choses hors du commun. J'ai des références en relation avec mon père, il y a des chansons qui me font penser à mon père, mais nos goûts sont diamétralement opposés, même si je lui dois beaucoup. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde.
D'accord. Brice, toi ?
Rejet complet ici, et peut-être que je le regrette un peu maintenant, peut-être que effectivement j'aurais eu un peu plus de connaissances en zouk et en salsa que mon père, mais peut-être encore aujourd'hui à fond dans sa bagnole. mais non, j'ai rien du tout. C'est vraiment rejet.
Écoute, je te comprends, car mes parents, eux aussi, leur phase zouk, et personnellement, je détestais ça. Donc oui, non, c'est pas possible. Après, je sais pas si je faisais un rejet complet étant enfant, sachant qu'ils ont aussi... de temps en temps, quand je suis chez mes parents, je regarde leurs vieux vinyles, et il y a des trucs là-dedans que je pourrais aimer. Tu vois, il y a des disques des Rolling Stones, il y a des trucs comme ça. Après, il y avait beaucoup, beaucoup de chansons françaises, et dans le tas, pas grand-chose dont j'étais fan. Tu vois, moi, Pierre Bachelet, Julien Clerc, pas forcément beaucoup ma cam. Souchon, vachement plus, déjà. Mais par exemple, mes parents avaient beaucoup de vinyles des Beatles, et je déteste encore de nos jours les Beatles. Je n'arrive pas à accrocher à la musique des Beatles. Alors que, tu vois, c'est un groupe qui a inspiré toute une génération de musiciens que j'adore, mais les Beatles, je fais un blocage complet. Et je ne sais pas si c'est lié au fait que mes parents aimaient ça. J'en en ai aucune idée. En tout cas... Peut-être. En tout cas, Opal ne se pose pas cette question, puisqu'elle écoutait Buddy Holly avec sa maman, puisque toutes les deux, c'était des bizarres, qui étaient fans d'un type qui était quand même archi célèbre. Hein. Faut quand même rappeler que Buddy Holly, à l'époque, c'était un carton absolu aux US. Donc, c'est pas parce que t'étais fan de Buddy Holly que t'étais bizarre. T'étais super normcore si t'écoutais Buddy Holly. En parlant de bizarre, on apprend que l'oncle Roscoe aussi, il avait pas d'amis au lycée. Je me demande bien à lequel de ces personnages Ernest Cline est en train de s'identifier. puisqu'il te dit que les bizarres sont ceux qui font tourner le monde, puisque les bizarres, c'est ceux qui font la meilleure musique, c'est ceux qui font le meilleur art, c'est ceux qui font les meilleures choses en tout. Donc voilà, globalement, la nerd culture, on n'en sort pas, même dans un livre pour enfants, c'est d'une tristesse.
Je pense que l'oncle Roscoe, il va au Hellfest. C'est vraiment le genre de personnalité que tu peux croiser soit au Hellfest, soit dans les bars métal, genre le Dr. Feelgood, pour ne pas le citer. C'est vraiment dans ces endroits-là que tu vas entendre des phrases comme dit Roscoe, « Sois fier de ta bizarrerie, il n'y a rien de plus ennuyeux que d'être normal ». J'ai eu un peu des PTSD, je me suis retrouvée au niveau de la Warzone il y a quelques années à écouter un vieux cracra me parler d'à quel point il était spécial, et bah je pense que c'est ce même mec.
Bah le rejet de la normalité, c'est aussi ce qu'on voit sur des sites d'edgelord genre 4chan et tout le bordel, hein. Le fait que les normies sont considérées comme des PNJ et tout le bordel, tout ça, il y a toute une mentalité archi-toxique qui émane de là, et donc c'est pas tellement étonnant, vu que cette espèce de gamer culture dont Ernest Cline se réclame, c'est aussi un peu ce qui était à l'origine de mouvements comme le Gamergate, enfin des trucs bien bien toxiques au possible.
À 100%.
Donc ouais. Oui, on n'en sort pas finalement. Hein. On y va pour un livre pour enfants avec des chauves-souris qui écoutent de la musique, et puis on se retrouve avec les mêmes conneries que d'habitude au final.
Mais vous n'imaginez même pas à quel point j'ai été heureux de lire ce passage, non pas seulement parce que je suis moi aussi une personne bizarre, non, c'était pour moi la révélation ultime que vraiment l'oncle Roscoe allait être mon personnage préféré pendant tout le bouquin, parce que c'est, ouais, c'est une ou deux pages où il aurait juste pu écrire Oncle Roscoe et mon self-insert, c'est moi.
Oui, oui.
C'est Oncle Roscoe égale Ernest Klein. Et tu sais que tu vas t'éclater.
Tu sais que tu vas en avoir pour ton pognon, là, à partir du moment où il s'identifie. Hein.
Moi, j'ai noté autre chose. Donc, il y a tout un passage sur le grand-père mort d'opale, qui personnellement, enfin vraiment, c'était du vide intersidéral, quoi. C'était un néant parfait, si parfait, qui semblait conçu pour ne laisser aucune trace dans l'esprit du lecteur. Et il y a un moment, Opal, enfin une épiphanie, comme une envie de pisser, elle dit, mais en fait, j'ai pas pensé à comment est-ce que je vais me démerder pour aller à l'école, parce qu'elle est quand même en train de déménager. Et pareil, c'est expédié. Enfin, c'est une question qui peut sembler légitime et qui aurait pu amener un développement intéressant, mais son oncle lui répond en vague, rien que t'inquiète, il y a pas de problème. Et l'affaire est classée, on passe à autre chose. Je trouve que c'était une manière extraordinaire de désamorcer tout débat. C'était.
C'est un kleinisme typique, tu sais, où on t'évoque un élément qui pourrait être potentiellement un problème, mais qui est expédié dans la ligne qui suit, en fait, où il n'y a aucun élément de suspense, aucun problème, en fait. Tout est réglé, tout est géré de manière extrêmement simple en trois lignes. Enfin, on se souvient, par exemple, dans Ready Player Two, de la fameuse épée, l'épée légendaire dont ils avaient absolument besoin pour vaincre le méchant. Et cette épée, en fait, était ramenée off-screen, on dirait, dans un film, par un autre groupe dont on ne sait rien, on n'a aucune idée de comment ils l'ont récupérée, mais ils l'ont récupérée et hop, problème résolu, on est sur le même niveau d'écriture, en fait, globalement. C'est dommage de voir qu'il ne progresse pas, hein. Ça fait 20 ans qu'il écrit, cet homme-là, et ça fait 20 ans qu'il écrit toujours aussi mal, en fait. Il n'a absolument rien appris.
On serait pas là sinon, c'est bien.
C'est vrai qu'aussi, ça nous permet de faire des podcasts, hein, au final, on rigole bien.
Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué pour clore ce chapitre ?
Ah, moi, je propose de clore ce chapitre avec la chanson On the Road Again de Willie Nelson, que je connaissais, donc j'étais content. Et typiquement, une chanson de musique de pub de bagnole, ça. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way.
Alors moi j'ai une autre proposition de conclusion. Donc après des phrases comme « il n'y a rien de plus ennuyeux que d'être normal », il se met en tête de joindre le geste à la parole et il se met à klaxonner comme un forcené, au point où tous les automobilistes autour de lui sont furax, et je trouve ça légitime. Mais le mec est une nuisance publique. La gamine est en adoration. Moi, j'avais déjà envie de descendre du véhicule en marche. C'était insoutenable. Donc, pour moi, le mec est fou dangereux.
Écoute, c'est typique de l'écriture de Klein d'essayer de te faire aimer des personnages, mais de te les faire détester à la place, quoi. Moi, je repense à Wade Watts, qui était un furieux psychopathe dans tout Ready Player 2 et qui, à aucun moment, n'a un arc de rédemption, quoi. C'est un cinglé du début à la fin du livre, en fait.
C'est vrai, c'est vrai.
Et ouais, l'oncle Roscoe, écoute, il a un fort potentiel, je pense. Il a un fort potentiel, on verra où. Moi, je suis. Peut-être qu'il va mourir, hein. Peut-être.
Je pense pas.
Bah, s'il continue à rouler comme ça, il y a de grandes chances que ça soit dans un accident de la route.
Et on sait jamais, hein, quand tu klaxonnes quelqu'un aux États-Unis, surtout au Texas, t'as toujours une chance qu'il y ait un flingue dans la boîte à gants. Alors, méfie-toi.
Ouais,
hein.
Ouais.
Ça peut vite arriver.
Allez, je lance un pari, mais vraiment un pari nul, qui a très peu de chances d'arriver. Comme on parle de chauve-souris. Est-ce qu'il va pas crever de la rage?
Alors, moi je pense que non, puisque c'est une parfaite transition pour notre chapitre 5, puisque dans le chapitre 5, tu te retapes une explication de texte sur les chauves-souris et Roscoe t'explique que non, les chauves-souris qu'il y a dans la région, c'est des chauves-souris gentilles qui se contentent de manger les insectes et qui sont bien utiles, puisque lui qui est agriculteur, tous les insectes nuisibles, les chauves-souris s'en occupent, ce sont donc ses meilleurs amis, et qu'elles ne mordent pas et qu'elles n'ont pas la rage, puisque ce ne sont pas des chauves-souris vampires, ce sont des chauves-souris gentilles. Et c'est comme ça qu'Opal, qui avait peur des chauves-souris, est de nouveau contente, et qu'elle aime les chauves-souris maintenant, c'est réglé en l'espace de quelques lignes.
Était bien ma transition, hein.
Et comment se termine ce petit encart qui explique justement la différence entre les chauves-souris vampires et les chauves-souris molosses en français ? En anglais, ça donne quoi ?
En anglais, alors, j'ouvre mon livre.
Ouais, pareil, je suis en train de chercher.
Avec un dessin de chauve-souris, la tête en bas, c'est à celui-là que tu penses ?
Non, je pense à avant, la différence entre les deux chauves-souris, les gentils et les moins sympas. Enfin, les supposément vampires, quoi.
Écoute, moi, j'ai un encart avec... Avec la différence entre les vampires et les autres,
voilà,
et c'est
ça.
Celui où il y a les deux chauves-souris, la tête en bas.
Ah, c'est intégré, ok, parce que c'est deux encarts différents dans la version française, et ça termine par « grosse différence, les amis ». Et ça m'a rappelé les heures les plus sombres de notre Game One. j'ai complètement paniqué, j'ai trouvé que c'était d'une niaiserie sans précédent. Voilà, donc ça m'a... Ah, les petits amis.
Eh bien, écoute, dans la VO, l'encart dit « les chauves-souris vampires se trouvent au Mexique, dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ». Alors que les chauves-souris, alors free-tail bats, je ne sais pas comment traduire ça.
C'est molosse en français.
D'accord, se trouvent partout dans le monde. Il y en a une qui boit du sang, l'autre qui mange des insectes. Big difference, y'all.
Ah, c'est ça, ça termine comme ça. Ah, mon Dieu.
Oui.
Okay. J'ai essayé de faire mon meilleur accent texan avec un y'all, mais voilà.
C'est magnifique.
Et ouais, et donc en dessous, t'as le dessin des deux chauves-souris, la tête en bas, qui... C'est très moche.
Oui.
Là, j'avoue, d'habitude, les dessins sont plutôt jolis, mais là, c'est moche, on dirait du Laurel.
Mais. Je suis en train de me demander, pour les illustrations. Là, c'est pareil, hein. Je suis dans mon fantasme qui est probablement faux. Il a probablement payé quelqu'un pour le faire et tout ça. Mais j'étais en train de me demander si c'était pas Klein, en fait, lui-même, qui avait dessiné comme un gamin de 8 ans.
Bah, c'est possible parce que l'illustratrice est créditée à la fin du bouquin et le style est tellement différent.
Voilà.
Que ce soit les chauves-souris, le costume turquoise.
Le dessin de Buddy Holly.
Et le dessin du break ou le dessin de la ferme qui sont plutôt chouettes. Il y a vraiment une grosse différence là. Donc, c'est peut-être, des dessins que Klein a crayonné. Vite fait sur son manuscrit, quoi. Honnêtement, je saurais pas dire.
Donc, il y a tout ce truc sur les chauves-souris, elles sont gentilles, il faut pas avoir peur d'elles, mais après, c'est très vite antagonisé et mis en contraste avec les très vilaines corporations qui veulent racheter le terrain pour creuser des trous et extraire du calcaire et empoisonner les rivières. Les méchants sont méchants parce que méchants. Le bien résiste avec un break cabossé et des cassettes audio en boucle, mais il y avait vraiment un côté téléfilm des années 90 que j'ai trouvé très touchant.
Ah bah, c'est donc Muckerno Limestone, qui est donc la compagnie minière, qui évidemment, on comprend très vite que ça va être les antagonistes, et on comprend très vite que, d'une certaine manière, Opal va les combattre grâce aux chauves-souris mélomanes. Globalement, il nous refait Ready Player One, mais avec des chauves-souris, quoi. Au lieu de se battre avec des personnages de jeux vidéo, maintenant c'est des chauves-souris contre la méchante corporation très vilaine. Et j'ai envie de lui dire, méfie-toi Ernest, parce que ces gens-là sont au gouvernement américain de nos jours. Donc, fais très attention, tu vas avoir une petite visite du FBI le matin au réveil.
Ernest Klein, écrivain militant.
Mais oui, tout à fait. Après, un court passage où on t'explique globalement que Roscoe est endetté jusqu'au cou, parce que, en gros, lui, il voulait être geek, pas fermier, donc il doit pas super bien gérer sa ferme, hein, mine de rien. Et qu'il a refusé plusieurs propositions de rachat de la méchante corporation qui veut creuser des trous pour extraire du calcaire et empoisonner les rivières et tuer les animaux. Donc ça, on le rappelle, c'est le programme, hein, du gouvernement américain actuel. C'est assez évident que ça va être une histoire de combat entre les gentils bizarres contre la méchante corporation. Et ça, c'est, je pense qu'il n'y a même pas besoin de parier là-dessus, c'est l'évidence.
C'est la corporation qui va le buter, en fait.
Je préfère la rage.
Mais moi aussi, je préfère la rage.
Que la corporation bute l'oncle Roscoe comme elle avait buté... C'était Shoto qui était mort dans Ready Player One, je sais.
J'ai oublié tout ça.
Oh, je sais pas d'où tu as cette mémoire extraordinaire.
Dans ce chapitre, globalement, c'est une deuxième explication de texte sur les chauves-souris, voilà. Parce qu'on n'avait pas encore compris la première fois, et Opal, qui commence le chapitre en ayant très très peur et en le trouvant vraiment dégoûtante, et qui maintenant est leur meilleure amie. Donc c'est 4 pages de mindsplaining, en fait, pour la rassurer.
Oui, moi je me suis dit, c'est quand même une enfant qu'on nous a vendue comme étant complètement hors norme, fascinée par des choses extrêmement spéciales. Et au final, elle se retrouve avec des terreurs extrêmement primaires de n'importe quel enfant de 13 ans. Et je me suis dit, dis donc, ça a été construit, cet enfant a été construit et écrite de manière déjà assez faible et chaotique. Et au final, le château de cartes est détruit en une phrase. Elle a peur des chauves-souris, elle est donc l'enfant la plus banale de l'histoire.
Attends, je viens de vérifier un truc.
Oui, mais maintenant, elle en a plus peur.
Parce que c'est une phrase, j'ai eu peur de l'avoir inventée tellement elle me semble ridicule. Peut-être que c'est pas le cas pour vous, vous me direz. Là, je viens de la voir, elle est surlignée, donc elle existe. En fait, l'oncle, en fait, parle, commence à introduire les chauves-souris. Et il sort une phrase à Opal, il lui dit, mais en fait, on t'en a jamais parlé parce qu'on avait peur que si t'aurais été au courant, tu serais jamais venu.
Oui, c'est vrai. Oui. Si t'avais su qu'il y avait des chauves-souris, t'aurais refusé de venir. Mais du coup, elle serait restée seule toute à Lubbock. Enfin, comment ça se serait passé, du coup?
Pas seulement ça. C'est acté ou qu'elle avait vraiment une turbophobie des chauves-souris. Il y a quelque chose ou...
Oui, parce qu'ils étaient au courant, manifestement, qu'elle en avait peur. Ouais, ouais, tu as raison.
Voilà.
Hein. Peut-être que c'était vraiment une phobie dont elle parlait ouvertement à tel point que son oncle, on le rappelle, hein, son oncle, qu'elle ne voyait pas souvent, qui donc la connaît un peu, mais qui vivait pas avec, en fait, que sa mère ait été au courant, ça serait pas surprenant, mais que son oncle le sache, tu as complètement raison. Et alors là, je suis complètement passé à côté, et merci d'en parler, mais oui, c'est...
Ça n'a aucun sens.
Si l'oncle est en courant, c'est que c'est une phobie vraiment super profonde chez elle.
Voilà,
quoi,
et...
Pour qu'elle en parle
et
autant.
Et son oncle, elle doit le voir assez souvent. Il y a un moyen très simple de le savoir, en fait, il suffit de compter sa collection de jeux Atari... Et j'espère qu'on aura le compte exact à un moment pour savoir bah, vraiment à la visite près combien de fois son oncle est passé la voir.
Bah après, on te dit assez ouvertement que globalement, il a mis entre 5 et 6 heures à faire le trajet. Il y a quand même 600 kilomètres. Hein. Donc, ça, on t'explique que là, si tu fais une conduite non-stop, t'en as pour 6 heures et 50 minutes. Donc, ils doivent quand même pas se voir tous les week-ends. Je pense que globalement... une distance pareille, tu la fais pas souvent. Donc ouais, le fait qu'il ait été au courant qu'elle soit terrifiée des chauves-souris, c'est que c'est quand même quelque chose qui la travaille particulièrement.
Il y a autre chose qui m'a un peu marqué, c'est donc comme tu disais, sur plusieurs pages, l'oncle va donc essayer de la rassurer, va essayer de l'apaiser, lui expliquer quelle est leur importance écologique, pourquoi est-ce que c'est nos alliés, des choses comme ça. Et il va ensuite proposer à Opal d'aller observer des chauves-souris d'un peu plus près. Et elle refuse dans le texte sèchement, donc un rejet qui est quand même ferme, et au lieu de se dire bon, elle est peut-être encore un peu apeurée, ma nièce bizarre, il lui dit comme tu veux, poule mouillée. Et j'ai trouvé que c'était d'une pédagogie extraordinaire.
Oui, il se fout de sa gueule. Ouais.
Et ça m'a beaucoup plu, je me suis dit tous ses efforts réduits à néant en une phrase.
Après, il a 23 ans, pourquoi pas.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, il est pas beaucoup plus vieux qu'elle, mais c'est vrai que oui, niveau pédagogie, il est pas super bon. Hein,
mais je sens bien que vous l'aimez particulièrement, du coup, je suis en train d'être l'avocat du diable parce que je critique votre personnage préféré.
Oui.
Alors, écoute, moi, vu que Roscoe c'est Klein incarné, je sais pas si je peux dire que je l'aime vraiment beaucoup quand même.
T'attaches pas trop, il va crever de la rage si les prédictions de Brice sont correctes.
Ou alors tué par la méchante corporation qui va l'empoisonner avec du calcaire. On sait pas.
Oh non, mes cheveux sont tout secs à cause du calcaire. Ils m'ont eu.
Mais on sait même pas s'il a des cheveux.
C'est vrai ça, putain.
Et en fait, les descriptions sont tellement lacunaires.
Peut-être que c'est pour ça qu'il porte un chapeau.
Ah, mais...
Voilà, on sait pas.
Oh, et ça se trouve, il est chauve et ça fait une référence aux chauves-souris. Non, ça serait que dans le truc français. Pardon, excusez-moi, je me suis emballée.
C'est dommage parce que franchement, il y avait quelque chose.
Je suis fatiguée, putain.
Pour finir, à la fin de ce chapitre, Opal s'installe donc dans l'ancienne chambre de son père, qu'ils ont gardée telle qu'elle, voilà, parce qu'ils ont de l'espace, faut croire. Et elle s'endort paisiblement. Alors, on ne sait pas si elle fait des cauchemars à base de chauves-souris. En tout cas, globalement, sa mère morte, ça y est, c'est terminé. Il a suffi de 2-3 burgers d'un jeu Atari 2600, elle y pense déjà plus. En tout cas, pour l'instant.
Bon, bah, c'est fini, au revoir.
Ouais. Allez, bonne soirée.
Mais c'est là qu'on en est, c'est là où on est à la fin du chapitre 5. Est-ce que vous avez des choses à ajouter?
Oui.
Oh bah vas-y alors.
J'ai une question pour la suite en fait. Je vais complètement sortir de mes notes et ça va être une question un peu impro. Vous avez des paris un peu rigolos pour la suite là?
Alors moi j'ai pas forcément. Alors à part la survie ou non de l'oncle Roscoe, étant donné que c'est écrit tellement en taille 90 en gras qui clignote que les méchants de Limestone machin vont essayer de les exproprier et que ils vont les chasser grâce aux chauves-souris. Voilà, globalement, j'ai pas beaucoup d'autres paris, je ne sais pas quel autre jeu Atari 2600 elle va avoir, je ne sais pas est-ce qu'elle va être fan d'un autre musicien, peut-être Richie Valens, on ne sait
Moi,
pas.
Moi, je suis très curieuse des tenues. J'ai hâte des beaux habits qu'elle va peut-être se confectionner en l'honneur des talents de couturière de sa maman Tono.
OK.
Est-ce qu'elle va rester un tonneau toute sa vie? Est-ce qu'elle va devenir peut-être une bouteille d'Orangina? On ne sait pas. La question reste ouverte.
C'est terrible, de réduire en 2025 le corps des femmes de cette manière. Faut quand même savoir que si on rigole, c'est plutôt par effroi et non par compassion ou par sympathie pour ce qu'a dit Ernest Cline dans ce texte. C'est immonde et je ris de l'absurdité et pas du propos en lui-même.
C'est bien de le rappeler parce que oui, il y a quand même des gens qui rient premier degré de ce genre de choses et je pense que Ernest en fait partie, hein, ce qui est une des raisons pour lesquelles ce n'est pas une personne que nous aimons particulièrement.
Ok.
Écoutez, moi je suis arrivé à la fin de mes notes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié, quelque chose sur lequel vous voudriez revenir ? Camille, toi c'est bon. Brice, il te reste quelque chose ou globalement on a fait le tour ?
Je donne 5 chapitres à Ernest Cline. 5 pour mentionner le jeu E.T. d'Atari. Je suis quasi certain. Il y a tous les astres sont là. Tout s'aligne. Il va pas pouvoir s'empêcher de mentionner ce putain de jeu E.T. et dans un petit encart parler du fait qu'ils étaient enterrés dans le Nouveau-Mexique ou je sais plus trop où. J'en suis certain.
Effectivement, tu jures, tu soutiens Mordicus, tu nous jures que t'as pas été regardé plus loin.
Ah, vraiment, j'ai déjà turbo galéré à lire 5 chapitres, tu penses vraiment?
Ok. Non, mais c'est pas.
Après, t'es sur une liseuse, t'aurais pu faire CTRL-F et chercher E.T., on sait pas.
Ah, non. En fait, ça vient de me venir, en fait. On parlait d'Atari et tout ça, et puis, du coup, là, je viens d'aller regarder la page Wikipédia, et effectivement, oui, c'est bien un jeu d'Atari, ouais. Qui date de 83, et il y a vraiment tout qui colle, et je suis certain que, on va se taper. Il y aura pas une grosse plotline sur ça, mais le jeu sera mentionné.
D'accord, écoute, c'est un pari intéressant, on va bien voir. Écoute, tu as dit 5 chapitres, ça tombe très bien, puisque c'est ce que l'on va s'infliger pour l'épisode suivant. Nous allons lire les chapitres 6 à 10 inclus. Donc si, comme nous, vous suivez sur la VO, ça veut dire que ça part de la page 60 et ça va jusqu'à la page 127. 67 pages, j'espère que vous êtes prêts, c'est du costaud. Camille, est-ce que tu as la pagination en français peut-être pour nos auditeurs?
Je suis désolée, je n'ai pas le livre avec moi.
Tu n'as pas le livre sous la main?
Je l'ai laissé dans mon canapé. Non,
bon, ce n'est pas grave. Du chapitre 6 au chapitre 10 inclus, globalement, ça devrait être suffisant. Si vous êtes sur liseuse, les numéros des pages ne devraient pas vous parler, mais 6 à 10 inclus, voilà. 6, 7, 8, 9, 10. On se retrouve dans 15 jours. Moi, je suis déjà impatient.
Moi, je vais faire, je vais me prendre quelques jours de repos là.
Tu
vas faire des choses qui m'apaisent plus que lire du Ernest Cline, genre travailler d'arrache-pied pour le Grand Capital de 8h jusqu'à 20h.
Ben, n'écoute pas d'écouter du Buddy Holly pendant que tu le fais. Du coup, je vous souhaite deux excellentes semaines, une très bonne lecture, et puis on se retrouve dans 15 jours pour essayer de répondre à cette question : à qui était ce break ?
Salut.
Et ses lunettes.
Un break rouge comme la moto de Canada, vous le notez. Hein. Bonjour et bienvenue dans La Moto de qui déjà, le podcast qui, avec vous, essaie de terminer. Ernest Cline a terminé la littérature.
Improduction et appelée.